VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel du mardi 4 décembre 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Campagne électorale en République démocratique du Congo, le Nord Kivu est au centre des convoitises. L'appel de l'opposition togolaise à une journée ville morte a été poursuivi à Lomé. La campagne pour les législatives a elle aussi timidement démarré. Début de la campagne pour le second tour de la présidentielle à Madagascar, Ange Rajouel et Marc Ravalomanane s'affronteront le 19 décembre. En France, le gouvernement annonce la suspension des nouvelles taxes sur l'essence pour apaiser la colère des Gilets jaunes. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Campagne électorale en République démocratique du Congo, Martin Fayulu sera à Beni ce mercredi. Le candidat de la coalition Lamuka, dont les avions ont été autorisés à survoler l'espace aérien congolais, a choisi cette ville meurtrie de la province du Nord Kivu pour lancer sa campagne à la présidentielle. Dans la même province se trouvent depuis aujourd'hui Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe qui ont tenu un meeting sur place. Le candidat de la coalition au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, lui se trouve à Badolité, dans le nord-ouest du pays. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après une première semaine timide qui a vu seul le candidat de la coalition au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, se lancer à l'assaut des électeurs, les autres favoris de la présidentielle du 23 décembre 2018 ont rejoint la dynamique de la campagne électorale. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont tenu mardi un meeting au stade Afia de Goma au Nord Kivu. Les deux leaders du ticket UDPS-UNC feront ensuite Bukavu le 6 décembre, puis Kisangani le 11. Martin Fayulu est lui attendu mercredi à Beni, ville meurtrie de la province du Nord Kivu. Le candidat de la coalition Lamuka fera ensuite Butembo, Bunia, Goma, Bukavu, Kisangani, Buta, Isiro et Kindu selon son équipe de campagne. Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du Front commun pour le Congo, a lui, après le Grand Katanga entamé par Badolite dans le Nord Ubangi, la conquête de l'Ouest et du Nord-Ouest de la RDC. Il ira à Gemena, à Lissala, à Bumba, à Bouende et à Mbandaka, des villes du Grand Équateur. Les autres candidats présidents de la République se contentent pour le moment des affiches banderoles et passages dans les médias et petits rassemblements à Kinshasa. Certains attendent que les conditions sécuritaires et matérielles soient réunies avant de se lancer dans la conquête du Congo profond. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
L'ambassade des États-Unis à Kinshasa a rouvert ses portes aujourd'hui après sa fermeture le 26 novembre à la suite d'une menace terroriste. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa travaille en étroite collaboration avec le gouvernement de la RDC pour répondre à une menace terroriste contre les installations gouvernementales américaines à Kinshasa, a tweeté l'ambassade. Le site web de l'ambassade indique que tous les services consulaires seront ouverts ce mardi sur rendez-vous seulement. Il a été demandé aux citoyens américains de rester discrets. En Centrafrique, la Cour pénale spéciale chargée de juger les violations graves des droits de l'homme commises depuis 2003 dans ce pays aura un domaine restreint d'intervention. Les responsables de cette cour qui ont donné l'information expliquent que c'est en raison du nombre de crimes commis dans ce pays et d'un budget limité. Au vu du nombre immense de crimes commis en Centrafrique, il est impossible de tout traiter. Il faut un domaine restreint d'intervention, a déclaré le président de la CPS, Michel Landry Louanga, lors d'une conférence de presse à Bangui. La Cour dispose d'un budget total de 61 millions d'euros. La journée Togo-Mort a été poursuivie ce mardi à Lomé. C'est ce qu'a constaté notre correspondante sur place. La ville a vécu une journée presque normale malgré le mot d'ordre lancé par la coalition des 14 partis de l'opposition. Le point dans la capitale togolaise avec notre correspondante Kailasson.
La journée Togo-Mort a été légèrement suivie à Lomé. Un tour dans la ville, de Réjanawe à Blogame, en passant par le mythique quartier de Bain, on constate une ambiance ordinaire. Les embouteillages matinaux étaient au rendez-vous, au grand carrefour et sur les axes principaux de la capitale togolaise ce matin. Le mot d'ordre a été lancé par la C14 pour demander l'arrêt du processus électoral. Il a été peu respecté. Dans le centre commercial d'Adaoulato, les commerçants ne se sont pas fait prier pour venir au marché, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, période propice pour faire des chiffres d'affaires. À part quelques rares boutiques qui sont restées fermées, Lomé a connu une journée normale. La campagne électorale pour les législatives du 20 décembre a débuté aujourd'hui. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Sénégal, Sidi Lamine Niass, le patron du célèbre groupe de presse Wolf, est décédé. Le fondateur du premier groupe de presse privé en Afrique de l'Ouest, Sidi Lamine Niass, a été un témoin actif des alternances politiques du pays. Il est devenu un symbole des médias en ouvrant les portes de son groupe de presse aux couches démunies. Il est décédé à l'âge de 68 ans. Sidina Abagay.
Sidi Lamine Niass est mort ce mardi matin à l'hôpital principal de Dakar des suites d'un malaise cardiaque survenu ce lundi dans la nuit. Fils de marabout et lui-même guide religieux, Sidi Lamine Niass a créé le premier groupe de presse privé d'Afrique de l'Ouest en 1984. De ce groupe multimédia sont sortis les plus grands noms de la presse sénégalaise. Alassane Sambo Diop est l'un d'eux. Aujourd'hui directeur de radio et de télévision, il rend un hommage soutenu au défunt.
Nous devons rendre hommage à Sidi Lamine Niass, de nous avoir fait confiance, de nous avoir aidé à faire nos premiers pas dans ce métier. Je pense que la nation sénégalaise doit lui rendre hommage.
Sidi Lamine Niass laisse derrière lui un groupe de presse qu'il aura su porter seul pendant des dizaines d'années. Décédé à l'âge de 68 ans, il sera inhumé ce mercredi dans la cité religieuse de Kaolack, sa ville natale. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
À Madagascar, la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle commence aujourd'hui. Ange Rajoel et Marc Ravalomanana, tous deux des anciens présidents, brigueront les suffrages des Malgaches le 19 décembre. La communauté internationale et la société civile multiplient les appels pour une campagne électorale apaisée. La Haute Cour constitutionnelle avait rejeté tous les recours en annulation pour le premier tour. L'ONG Human Rights Watch accuse les forces de sécurité du Mozambique de graves violations des droits de l'homme, dont des exécutions sommaires dans sa répression d'une insurrection islamiste dans le nord du pays. Sur la foi de témoignages recueillis depuis août dernier, l'ONG affirme que l'armée et la police ont pratiqué des dizaines d'exécutions sommaires et recourent aux détentions arbitraires et aux mauvais traitements contre les suspects d'appartenance aux groupes extrémistes qui sèment la terreur dans la région. Le président Felipe Nyusi a promis l'éradication de ce groupe et envoyé de nombreux renforts dans la région.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement français joue la carte de l'apaisement face à la colère des Gilets jaunes. Le Premier ministre Édouard Philippe annonce trois mesures fiscales, notamment la suspension des nouvelles taxes sur l'essence. Le point avec Raissa Girondin.
Pas de parole de l'Élysée à ce stade, après l'allocution du Premier ministre Édouard Philippe. Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation, a déclaré dans son allocution le Premier ministre français. Il a annoncé trois mesures pour tenter d'apaiser la crise des Gilets jaunes. Il s'agit de la suspension pendant 6 mois de trois mesures fiscales qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier, la hausse de la taxe sur l'essence, le fioul et le diesel, la convergence de la fiscalité du diesel avec celle de l'essence et l'alignement de la fiscalité du gazole non routier. Enfin, il a ajouté que ni les tarifs de l'électricité ni ceux du gaz n'augmenteront comme prévu pour l'hiver. La concertation sur la transition face à la crise des Gilets jaunes se tiendra du 15 décembre au 1er mars. Conséquence de ce moratoire annoncé, les indépendants des travaux publics qui bloquaient depuis 7 jours le dépôt pétrolier de Brest ont levé le blocus qui avait entraîné des pénuries de carburant. 412 personnes ont été interpellées samedi, selon le préfet de police Michel Delpuech, qui a évoqué des violences d'une gravité sans précédent à Paris.
Les États-Unis ont affiché leur soutien à l'OTAN, mais veulent que leurs alliés européens adoptent une position commune face au comportement de la Russie en Ukraine. L'objectif du chef de la diplomatie américaine est de dissiper les doutes sur l'engagement des États-Unis, nourris par les prises de position du président Donald Trump. Plusieurs associations françaises et espagnoles d'aide aux demandeurs d'asile ont appelé ce mardi à la solidarité avec l'Espagne, devenue la principale porte d'entrée en Europe depuis que l'Italie s'est fermée aux migrants. Depuis le début de l'année, l'Espagne a vu arriver plus de 55 000 personnes, soit plus du double de 2017. Et pour pour la seule semaine du 5 novembre. Les arrivées se chiffrent à 897 personnes contre 537 en Grèce et 352 en Italie, souligne le communiqué signé par 5 organisations. Le Yémen devrait accueillir près de 150 000 migrants en 2018, une hausse de 50% par rapport à l'année dernière malgré l'aggravation de la crise humanitaire due au conflit, ce qu'a annoncé ce mardi l'Organisation internationale pour les migrations. Le Yémen demeure une étape majeure sur la route des migrants d'Afrique qui tentent de gagner les riches pays du Golfe. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
En RDC, la Générale des carrières et des mines, la GECAMINE, a annoncé un premier accord qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de redéfinition de ses partenariats. L'accord a été passé avec une société de Hong Kong, Excellent Mining Investment. Il prévoit un partage de production sur 2 gisements au Congo-Kinshasa, dont les réserves pourraient dépasser 1 million de tonnes de cuivre et 100 000 tonnes de cobalt. L'Afrique du Sud est officiellement sortie de la récession après avoir enregistré une croissance de 2,2% au troisième trimestre de cette année, selon l'Institut de la Statistique. Le PIB du pays le plus industrialisé du continent avait reculé respectivement de 2,6% et 0,7% au premier et deuxième trimestre de 2018. L'actuel rebond a pour origine l'embellie de l'industrie, de l'agriculture et du secteur des transports. Pour terminer, l'OPEP et ses partenaires vont débattre cette semaine à Vienne d'une baisse de la production de pétrole pour enrayer la chute des cours et la pression américaine pour maintenir les prix bas. Si ces pays continuent d'extraire l'or noir à des niveaux records, ils risquent en effet de voir les prix continuer de baisser. S'ils durcissent leur accord de limitation de la production, ils pourraient mettre à mal la croissance mondiale très dépendante d'un carburant à un prix abordable. Les pays de l'OPEP doivent donc trouver un accord lors des réunions plénières jeudi et vendredi et regagner leur crédibilité auprès des marchés.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Et nous revenons sur l'attribution du Ballon d'Or, mais en chiffres.
Cette année restera un bon cru pour l'Afrique puisque Mohamed Salah a terminé 6e, soit le meilleur classement pour un Africain depuis 2009 et la 5e place de Samuel Eto'o. L'Égyptien a récolté 188 points. Son compère sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, 22e en compte 3. Pour rappel, chacun des 180 journalistes invités à voter devait désigner 5 joueurs par ordre décroissant de mérite à partir d'une liste de 30 joueurs préalablement établie par la rédaction de France Football.
En Italie, Mauro Icardi a été élu meilleur joueur de l'année.
Oui, l'attaquant et capitaine de l'Inter Milan a fini meilleur buteur de la saison 2017-2018 de Serie A avec 29 réalisations à égalité avec Ciro Immobile de la Lazio Rome. La Juventus, septuple championne en titre, a été élue meilleure équipe de l'année. Son entraîneur Massimiliano Allegri, qui reste sur 4 doublées coupes championnat d'affilée à la tête de la vieille dame, a été distingué comme meilleur coach pour la 4e fois de sa carrière.
6 300 000 dollars de retombées du mondial pour les clubs africains.
Comme c'est le cas depuis 2010, les clubs qui ont mis à la disposition des sélections leurs joueurs pour la Coupe du Monde 2018 vont recevoir une compensation financière de la part de la FIFA. Au total, la FIFA a indiqué qu'elle va verser 209 millions de dollars à 416 clubs issus de 63 associations membres. Sur ce montant, environ 6,3 millions de dollars vont revenir aux 17 clubs africains qui comptaient au moins un élément présent en Russie. Avec 1,7 millions de dollars, c'est Al Ahly d'Égypte qui recevra la plus grosse part du gâteau.
Athlétisme, Eliud Kipchoge est optimiste pour le titre d'athlète de l'année.
Le Kenyan, nouveau recordman du monde du marathon en 2h, 1 minute 39 secondes, espère être désigné athlète de l'année par l'IAF ce soir à Monaco. Il est en concurrence avec le décathlonien français Kevin Mayer, le sprinteur américain Christian Coleman, le persiste suédois Armand Duplantis et le coureur de 400 mètres et qatari Abderrahman Samba. Chez les dames, le prix sera disputé entre la Kenyane Beatrice Chepkoch, nouvelle record woman du monde du 3000 mètres steeple, et la sprinteuse britannique Dina Hashes Smith, entre autres.
Merci, Yacouba.
VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe maintenant au dossier du jour. Le 24 février 2019, les Sénégalais iront aux urnes pour l'élection présidentielle. À quelques mois de ce rendez-vous électoral majeur pour le Sénégal, la situation sociopolitique est tendue, une situation qui indispose et inquiète les Sénégalais rencontrés dans ce reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
À 3 mois de la présidentielle, la tension politique est perceptible au Sénégal. La bagarre à l'Assemblée nationale entre députés du pouvoir et de l'opposition lors de la séance de vote du budget du ministère de l'Enseignement supérieur vient mettre de l'huile sur le feu. À cela s'ajoute un front social en ébullition avec la grève des agents de la justice et ceux de la santé. Une situation qui désole les citoyens comme Sambo Diop.
C'est une période extrêmement cruciale et par conséquent, il va falloir des comportements beaucoup plus citoyens. Et non pas, n'est-ce pas, des comportements, n'est-ce pas, de battre en guerre. C'est une élection des échéances très importante pour le Sénégal et ça doit redorer le blason, n'est-ce pas, sur le plan international. Et par conséquent, les acteurs politiques doivent donner le bon exemple au niveau des plateaux de télévision ou bien d'autres plateaux, n'est-ce pas, qu'ils aillent dans le sens de l'apaisement. Je pense que c'est mieux.
Abdourahmane, marchand ambulant âgé de 35 ans, est toujours tête à par la tension politique que le Sénégal a connue en 2012. Voilà pourquoi il dénonce l'agitation et la violence dans l'échiquier politique du pays.
Si l'on poursuit sur cette lancée et si les violences continuent comme ça, ça risque d'être pire qu'en 2012. Les leaders politiques doivent montrer le bon exemple afin que l'on puisse avoir des élections libres, transparentes et sans violence. La bagarre à l'Assemblée nationale n'est pas digne de nos députés. Ils doivent avoir un peu plus de respect envers le peuple qu'ils représentent. Ils doivent avoir un bon comportement et bien faire leur travail. Mais se battre devant les caméras du monde entier, ce n'est pas digne et ce n'est pas ça leur boulot.
Trouvé devant sa maison assise à Grand Dakar dans la banlieue dakaroise, Saliou Diaw indexe le parti au pouvoir et l'opposition. Selon le natif de Thiès, ils sont tous responsables de cette violence. D'ailleurs, ce jeune estime qu'il est temps que nos dirigeants mettent fin à certaines pratiques.
Pour moi, toute cette agitation traduit le manque de confiance de nos leaders. Les personnalités politiques doivent penser au futur. Chacun d'entre eux peut aspirer à diriger le pays et on ne peut pas diriger un pays dans la violence. Donc, ils doivent tous se ressaisir, penser au peuple et à la postérité. Je pense qu'il est temps pour eux d'avoir une attitude responsable afin de laisser une belle image pour la postérité.
Ce climat politico-social tendu inquiète au Sénégal, pays connu pour sa stabilité sociale et son hospitalité. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le nombre de chômeurs au Nigeria a bondi de près de 30% cette année. 16 millions de personnes sont ainsi sans emploi selon un rapport publié en novembre par le Bureau national des statistiques. 2 autres millions devraient être au chômage d'ici la fin de l'année. Cela à environ 2 mois de la présidentielle. Un reportage de Timothy Obiezu avec le récit de Raissa Girondin.
Josh Okere, ce jeune Nigérian, se prépare de nouveau à descendre dans la rue à la recherche d'un travail. Un exercice qu'il pratique depuis qu'il a obtenu son diplôme il y a 6 ans.
Vous quittez votre maison le matin sans savoir où vous allez. Vous avez simplement cet espoir, cette conviction que lorsque vous sortez, vous trouverez quelque chose.
Au Nigeria, le taux officiel de chômage a subi une augmentation de 30% cette année. Ils ne sont pas moins de 16 millions sans travail et l'on estime à 2 millions le nombre de chômeurs qui devraient rejoindre la liste d'ici la fin de l'année. Moins de 40% des quelques 200 millions de Nigérians ont un emploi à part entière. Pour l'économiste Eze Onyekpere, le chômage touche tous les secteurs de l'économie nigériane.
C'est aussi un produit des choix que vous faites dans votre politique commerciale, votre politique du travail, votre politique industrielle, même votre politique d'éducation, votre politique de santé. C'est simplement une démonstration de la confiance que les gens ont dans votre économie. C'est aussi question de la qualité des biens et services que vous produisez dans le pays. Nous avons donc un gouvernement qui, avec tout le respect que je lui dois, n'a pratiquement aucune idée de la politique économique.
Le Nigeria a dépassé l'Inde cette année pour devenir le pays ayant le plus grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, soit 87 millions selon la Brookings Institution basée à Washington. Au Nigeria, aux élections de février, il est probable que le chômage et la pauvreté dominent l'agenda des partis politiques en quête de suffrage. Selon l'analyste politique Lanré Osho, de nouvelles propositions de politique économique sont peu probables.
Ceux qui observent l'économie nigériane auront sans doute remarqué que l'économie est figée depuis un moment. Vous savez que nous avons une politique très singulière au Nigeria qui gèle notre économie à l'époque des élections.
Le Nigeria est sorti de sa pire récession en près de 3 décennies en septembre dernier et a connu des épisodes de croissance économique. Mais il n'y a pas eu d'impact positif quant au chômage et à la pauvreté. Le Nigeria doit créer 4 millions de nouveaux emplois par an pour inverser les tendances négatives, un défi de taille pour le vainqueur de la présidentielle de février.
Raissa Girondin avec vous dans Washington Forum. Coup de projecteur sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Après le retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun, la Confédération africaine de football a un mois pour faire un nouvel appel à candidature. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun? Comment expliquer son incapacité à construire dans les délais les infrastructures pour abriter cette grande messe sportive? Quelles seront les conséquences pour la CAN 2019 qui va l'organiser? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Tchad, ouverture hier de la 5e session criminelle de la Cour d'appel de N'Djamena. Au total, 25 dossiers sont inscrits au rôle de cette session criminelle. André Kodmajingar, le correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Nous avons 16 cas de viol, des cas d'assassinat, des cas d'association de malfaiteurs, des cas de participation à un mouvement insurrectionnel, un cas de meurtre, un cas de détournement des mineurs, un cas d'enlèvement d'enfants.
Mokhtar Abdelhakim Doutoum, procureur général, près la cour d'appel de N'Djamena, citant la nature et le nombre des infractions inscrites au rôle de cette session criminelle dans sa réquisition. Le procureur général assure que ces accusés auront droit à un procès juste et équitable conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Les principes consacré dans cette déclaration qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de notre audience sont les suivants. Droit à un procès équitable, article 10 de Déclaration universelle des droits de l'homme. Droit à la présomption d'innocence et droit à la défense, article 11 de même déclaration. Droit à l'égalité devant la loi, article 7 de même déclaration.
Le code de procédure pénale prévoit 2 sessions criminelles par an pour chaque cour criminelle en République du Tchad. Le secrétaire de l'Ordre des avocats du Tchad, Djumadoum Kamto Emmanuel, se réjouit du fait qu'en une année, la cour d'appel de N'Djamena est à sa 5e session criminelle. Il dénonce par ailleurs le caractère sélectif des dossiers pour cette session.
Déjà, j'ai été surpris par les infractions de viol qui occupent plus de la moitié du rôle. Mes attentes, c'est que les coupables soient punis et que les innocents soient purement et simplement acquittés. Je me réjouis du fait qu'il y ait eu plusieurs sessions criminelles cette année, ce qui permet aux accusés d'être fixés sur leur sort.
Le procès tant attendu est celui de l'ex-chef de guerre, le général Babalade, arrêté depuis plus de 4 ans pour rébellion et association des malfaiteurs. Son dossier passe le 5 décembre devant les juges de la cour d'appel. Pour le porte-parole du mouvement Action citoyenne pour l'application de l'amnistie au Tchad, Manga Jean Bosco, l'audience actuelle est sans objet puisque Babalade devrait logiquement bénéficier de l'amnistie générale signée par le président Déby.
Nous attendons que la session criminelle puisse juste prendre acte de l'existence de l'amnistie pour tous les anciens rebelles, quel que soit ce qu'ils ont fait. L'autorité publique a pris la décision de les amnistier. Donc c'est de prendre acte et de dire que l'audience actuelle, la session criminelle, n'a pas d'objet et que Babalade devait tout simplement être confirmé comme un amnistié et on doit le libérer purement et simplement.
Les autorités judiciaires justifient le fait qu'un tiers des dossiers inscrits au rôle concerne le viol par le fait que cette session se tient pendant la campagne de 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. André Kodma Dingar Ndjamena, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La République démocratique du Congo traverse la pire épidémie d'Ebola jamais enregistrée dans ce pays, avec plus de 420 cas recensés dans l'est du pays. Cette épidémie d'Ebola, la dixième en RDC, est particulière car plus de 60% des patients sont des femmes. Anita Paul a visité deux zones affectées. Son reportage présenté par Morgan Kiriek.
Bénédicte n'a qu'un mois, mais sa courte existence a déjà été bien difficile. Elle a passé les trois dernières semaines de sa vie en isolement, coupée de tout contact humain. Sa mère, atteinte du virus Ebola, est morte en la mettant au monde. Elle est sous les soins constants d'une infirmière couverte de la tête aux pieds avec un équipement de protection. L'équipe médicale ne sait pas où se trouve son père et son avenir est incertain. Depuis le début du mois d'août, le virus Ebola a été diagnostiqué chez plus de 400 personnes, dont plus de la moitié sont mortes. C'est la deuxième pire épidémie d'Ebola, après celle qui a tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. La maladie est d'autant plus compliquée à gérer que la zone où elle se propage est aussi le théâtre de plusieurs conflits armés. La région est un cocktail explosif sur lequel est venu se coller le virus Ebola. Pour le docteur Guido Cornalet, coordonnateur de l'UNICEF, dans la région, l'ampleur de l'épidémie est une évidence.
C'est devenu la pire épidémie au Congo, ce n'est pas un mystère.
Ce qui est mystérieux, c'est pourquoi plus de 60% des cas sont des femmes. Le docteur Joloko Tambwe Bat, coordinateur régional de la santé auprès du gouvernement.
Toutes les analyses faites démontrent que cette épidémie est très féminisée. Les chiffres sont quand même alarmants. Il est vrai que les femmes sont plus nombreuses que les hommes ici.
Le docteur Bat refuse de dire ou prédire la fin de l'épidémie. Mais des responsables d'organismes internationaux de santé estiment que cela pourrait durer encore 6 mois. En attendant, d'après le docteur Cornell, les épidémiologistes essaient de comprendre pourquoi le virus Ebola affecte autant de femmes et d'enfants.
Pour l'heure, on ne peut qu'essayer de deviner. L'une des hypothèses est que les femmes s'occupent de personnes malades à la maison. Donc si un membre de la famille tombe malade, qui s'en occupe? Une femme, normalement.
Une femme, une mère, une épouse ou une infirmière, d'autant que beaucoup de personnes touchées sont des agents de santé. L'infirmière Guylaine Moulindois-Massika a passé 16 jours auprès d'une patiente qui lui a transmis le virus. C'était le combat de sa vie, un combat pour survivre.
Ah, ce sont des douleurs énormes. En tout cas, des douleurs vives, des maux de tête, des diarrhées, des vomissements, des affaiblissements. Là. Donc, on est très malaisé là-bas.
Pour les malades, le chemin de la guérison est long et solitaire. Massika et ses collègues ont dû s'absenter du travail, être en réclusion pendant au moins 3 semaines pour s'assurer que le risque d'infection a disparu. Dans le principal hôpital de Béni, les familles qui se sont rétablies vivent ensemble sous une grande tente blanche séparée de contacts humains grâce à un cordon en plastique orange vif. Ils disent bonjour à leurs gardiens et qui doivent enfiler des vêtements de protection s'ils veulent s'approcher d'eux.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Joselle Morissin. À la console, Calvin Fallon. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.